Voilà, donc je vais parler d'un autre sujet sur le virus WannaCry. Alors je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà entendu parler. Le virus WannaCry, c'est un virus qui a fait énormément parler de lui. C'était au mois d'avril, qui a infecté en quelques jours des milliers d'ordinateurs. Je vais juste vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Comment il a pu, en trois jours, infecter des milliers d'ordinateurs sur la planète entière. Le vecteur de WannaCry, c'est le protocole SMB. Alors, je pense que pour vous, la plupart d'entre vous, ça veut rien dire. Le protocole SMB, en fait, un protocole, c'est un langage entre plusieurs ordinateurs. Ce protocole SMB, c'est un protocole qui permet de partager des fichiers des imprimantes. C'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise, ou même chez vous, vous avez plusieurs ordinateurs, vous avez une imprimante, vous n'êtes pas obligé de brancher l'imprimante directement sur votre PC, vous allez pouvoir y accéder à distance, ou partager des fichiers entre vos différents ordinateurs. Donc ça, c'est le protocole SMB. La version 1 est obsolète depuis 2006. Donc c'est un protocole qui a été créé dans les années 90, je crois. En 2006, il y a une nouvelle version, enfin avant, il y a une nouvelle version, et en 2006, Microsoft a dit « N'utilisez plus la version 1. Elle est vieille, elle a été mal conçue, il faut passer à autre chose. » Il y a une version 2, aujourd'hui on a la version 3, mais la version 1, ça fait plus de 10 ans qu'il ne faut plus l'utiliser. La NSA, on en a parlé un peu, donc le service de renseignement américain, ont repéré une faille critique dans ce protocole. Il y en a plusieurs, oui. Donc, repérer des failles critiques. Donc, nom de code Eternal Blue. Ça leur a permis, sans que la cible ne voit rien, ne fasse rien, d'exécuter du code sur un ordinateur. C'est-à-dire que vous avez un ordinateur qui utilise le protocole SMB en version 1, sans rien faire, le code s'exécute. Donc c'est comme pêcher à la dynamite. Je ne sais pas d'où vient la...
C'est en fait quand les services de renseignement collectent les failles de données et ne les transmettent pas à ceux qui peuvent les corriger parce qu'ils s'en servent au cas où il y a de méchants ennemis à pirater. Des fois, ils s'en servent contre des cibles civiles pour voir ce que ça fait. La personne qui a découvert Eternal Blue, qui a fait le logiciel, il a dit plus tard dans une interview qu'il a accordée confidentiellement à un journaliste, ben, l'utiliser, c'était comme pêcher à la dynamite tellement que c'était puissant. Vous vouliez avoir un petit poisson, ben, en fait, vous venez de vider complètement un lac, ça ouvre vraiment toutes les portes.
Alors, petite historique du coup. Alors, c'était en avril. Ce qui s'est passé en février 2017. Tous les mois, j'en ai parlé juste avant, Microsoft fait des mises à jour. Donc, c'est ce qu'on appelle le Patch Tuesday, donc le mardi du patch. Le deuxième mardi de chaque mois, vous lancez Windows Update, vous avez des mises à jour vers 19h. Et en février, le Patch Tuesday a été annulé. On ne sait pas trop pourquoi. Les sites d'information informatique. On me fait passer ça en disant il y a un souci ce mois-ci, on ne sait pas ce qui se passe, mais les patchs de ce mois-ci arriveront le mois prochain. Alors ce qui s'est passé, effectivement, le patch Tuesday de mars est plus gros, avec cette fois Microsoft qui nous dit appliquer ce patch. Donc il faut toujours les appliquer, mais là spécialement appliquer celui-là encore plus. Voilà, ça c'était au mois de mars. Mois de mai, le 12 mai, un virus se propage. Tous les ordis n'ont pas eu le patch de mars, c'est-à-dire que je vous ai dit par défaut, les mises à jour sont automatiques, mais il y a beaucoup d'ordinateurs qui n'ont pas les mises à jour automatiques. Et ce virus se basait sur la faille Eternal Blue qu'on a vue juste avant, qui a été patchée en mars, mais dont le patch n'a pas été appliqué. Et tous les vieux ordis plus vieux que Windows Vista, il y en a encore, n'ont pas eu le patch non plus parce que Microsoft considère que ces versions de Windows sont obsolètes, elles ne sont plus supportées. Donc si vous avez un Windows XP ou encore plus vieux, vous ne recevez plus de mise à jour. Et ces ordis-là étaient aussi victimes des virus. Alors, c'est la plus grave infection depuis Conflicker. Donc, Conflicker, c'est un virus qui s'est répandu en 2008, qui aurait infecté 9 millions de machines. Et là, selon les estimations, on aurait eu 300 000 PC infectés dans 150 pays, en seulement quelques jours. Alors, je tiens quand même à noter que, par rapport à 2008, on voit qu'il y a beaucoup moins de virus infectés, parce que grâce, notamment à cette mise à jour, grâce à la mise à jour automatique qui a eu lieu et grâce à globalement une meilleure sécurité sur tous les systèmes, ça a permis de diminuer le nombre d'infections, mais ça reste quand même quelque chose d'énorme. Peut-être vous, certains d'entre vous dans votre entreprise ont entendu parler qu'il y avait eu un souci, une machine qui ne marchait plus le 12 mai ou le 15 mai, le lundi en arrivant au travail. Le samedi 13 mai, MalwareTech, donc ça c'est un nom de compte Twitter, c'est le nom d'un chercheur en informatique britannique, a réussi à bloquer involontairement la propagation. Pas bloqué, mais vraiment bien diminué, en déposant le domaine, ce domaine-là. Donc, je ne vous le dis pas, ça veut rien. Il n'a pas juste fait ça par hasard. Je vous le dis, il n'a pas tapé ce nom par hasard, qui a par hasard arrêté le virus. Ce qui s'est passé, c'est que le virus, quand il s'exécute, avant d'aller chiffrer tous les fichiers et de se propager, il fait une requête sur ce domaine. Alors, on ne sait pas pourquoi il fait une requête. A priori, ce serait ce qu'on appelle un kill switch, c'est-à-dire une option pour les développeurs d'arrêter le virus à distance. Donc, il fait une requête sur ce domaine. Notre théorie, c'est que ça permet de savoir si le virus est dans une sandbox. Alors, une sandbox, c'est ce qu'utilisent les chercheurs en sécurité pour travailler, pour vérifier comment fonctionne un virus, et notamment ce qu'avait fait ce chercheur. Dans une sandbox, parfois, elles sont configurées pour répondre à toutes les requêtes et pas faire vraiment la requête sur Internet. Donc, il a déposé ce domaine justement pour voir ce qui se passait, pour étudier la propagation du virus. Il s'est dit, puisque ce virus fait une requête sur ce domaine, je vais les réserver et je vais regarder tout ce qui se passe pour voir combien de personnes sont infectées. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en faisant ça, il a arrêté la propagation. Alors, dans les 12 heures, il y a une nouvelle version forcément. Les pirates, ils ont vu qu'il y avait une faille dans leur logique, donc ils ont annulé, ils ont enlevé le kill switch et ils ont relancé le virus. Qui est derrière l'attaque ? La NSA a découvert les failles SMB et ils l'ont gardée secrète. C'est-à-dire que normalement, quand dans le domaine informatique, quand on découvre une faille, on prévient l'éditeur, on prévient Microsoft, on la garde secrète le temps que le patch soit fait. Et ensuite, quand le patch est déployé, on peut en parler. La NSA, ils ont dit non, nous, on a une faille, on la garde secrète parce qu'elle peut nous servir. On va pouvoir peut-être espionner certains ordinateurs, certaines personnes grâce à cette faille. Ils avaient une faille depuis on ne sait pas combien de temps et ils l'ont gardée pour eux. Un groupe, Shadow Broker, un groupe de pirates, aurait piraté la NSA. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réussi à récupérer notamment les informations qui permettent d'exploiter cette faille. Ils ont essayé de vendre tous les secrets qu'ils ont trouvés dans la NSA aux enchères. Faute d'acheteurs, personne n'a voulu enchérir, ils ont mis aux enchères, ils ont répandu dans la nature. À partir de là, tous les ordinateurs du monde qui n'étaient pas à jour avaient le risque d'être infectés. Et on ne sait pas du coup qui a pu l'utiliser, puisque vous-même, vous aurez pu récupérer ces informations et écrire ce virus. Alors on ne sait pas qui l'a créé. Le ransomware utilise Bitcoin et Tor. Donc Tor, on l'a vu juste avant, ça permet vraiment de rester anonyme. Ça a permis au virus aussi de rester anonyme. Bitcoin, c'est un système de paiement aussi qui permet d'envoyer de l'argent sans dire d'où ça vient et à qui ça va. On a pu analyser les portefeuilles Bitcoin, contrairement à ce qu'on peut croire, ça peut être anonyme, mais ce n'est pas du tout secret. C'est-à-dire tout ce qui se passe sur le Bitcoin, tous les échanges sont publics. Et donc on sait que le virus utilisait 3 portefeuilles Bitcoin et on a pu surveiller combien d'argent allait sur ces portefeuilles. Notamment, on sait qu'en 4 jours, ils ont engrangé environ 40 000 euros. Alors le 19 mai, quelques jours plus tard, Microsoft écrit un papier furieux parce que la NSA avait cette information depuis longtemps. Ils ne l'ont pas dit. Et ils ont dû déployer un patch en urgence. Alors le fait qu'en février, le patch Tuesday était annulé prouve qu'il y avait vraiment un problème, que quelque chose n'était pas prévu. Donc ils n'étaient vraiment pas contents. Et exceptionnellement, le patch qu'ils ont fait pour les ordinateurs depuis Windows Vista, ils l'ont sorti pour Windows XP ou Windows Server 2003. C'est vraiment exceptionnel puisqu'ils ont décidé que ce sont des vieilles versions de Windows. Elles n'avaient plus droit à aucune mise à jour depuis quelques années. Ils ont été obligés cette fois, pour enrayer la propagation du virus, de sortir le patch pour ces vieilles versions de Windows. Et on a découvert un autre virus qui circule, qui utilise la même faille, mais plus discret et qui corrige le trou de sécurité. Donc ça, c'est des gens qui sont un peu plus malins, qui ont dit « cette faille me permet d'exécuter du code. Le code que j'exécute, au lieu d'être malfaisant, je vais appliquer le vrai patch ». Et comme ça, l'utilisateur est protégé. Est-ce que vous avez des questions ? Alors oui, ça pouvait concerner les particuliers. Alors, sachant que la manière dont il fonctionnait, ça fait que ça touchait plus les entreprises, puisque ça permet d'exécuter du code sur une machine à distance, mais il faut que ce soit une machine sur le réseau. C'est-à-dire que vous, si vous avez un seul ordinateur chez vous, le virus ne va pas pouvoir accéder au protocole SMB, donc à votre ordinateur, puisque vous avez une livebox entre qui bloque les requêtes. Alors, en général, ce qui se passait, c'est que le virus était envoyé par email, comme beaucoup de virus font. Ce qu'on a vu dans la présentation préférante, c'est un mail qui arrive dans une société en disant « Voilà, il y a une facture en pièce jointe, vous cliquez dessus, pof, le virus s'active. » La différence, c'est que cette fois, le virus il ne s'active pas que sur le poste client, mais sur tous les postes de l'entreprise qui sont allumés. Donc, ça peut toucher les particuliers, mais de la manière dont ils s'exécutent, ça l'a beaucoup moins touché dans les faits. Ah, non. Alors, si on a Windows XP, les mises à jour sont nouveau malables ? Non. Ce qui s'est passé, c'est que Windows XP, il n'y a plus de mise à jour depuis plusieurs années, depuis 2012, donc 5 ans quand même. Et Microsoft a décidé, pour ce cas particulier, pour cette faille particulière, je fais un patch. Mais il n'y en aura pas d'autres. Ah oui, qu'est-ce que ça fait ce virus ? Alors c'est ce qu'on appelle un ransomware. Alors un ransomware, c'est un virus qui va chiffrer tous vos documents. Ça va chiffrer, alors pas tout le disque dur parce que y a tout ce qui est système, il n'y aura pas accès, mais tout ce qui va être vos documents personnels vont être chiffrés. Et il y a une fenêtre qui va apparaître vous demandant de payer pour pouvoir les déchiffrer. Donc ça, c'était à la mode quelque temps. On a vu passer pas mal au bureau l'année dernière. On s'en est sécurisé depuis grâce à ce que je vous ai dit. Mais voilà, c'est-à-dire que vous recevez le virus, il travaille en arrière-plan, vous vous rendez compte de rien jusqu'à ce qu'il ait fini et il vous dit « Attention, vous n'avez plus accès à aucun fichier ». Et là, vous avez une adresse Bitcoin qui vous dit « Envoyez, je ne sais pas combien, c'est dans les 300 ou 400 euros peut-être, à telle adresse Bitcoin et on vous les déchiffre ». Alors, est-ce qu'il y a des hôpitaux qui ont été infectés ? Alors oui, alors je ne sais pas si c'est ce virus ou un WannaCry particulier, mais il y a eu plusieurs attaques de ransomware l'année dernière. Je crois qu'on en a beaucoup entendu parler. Effectivement, il y a des hôpitaux qui en ont été victimes. Et donc, alors je n'ai pas les informations exactes en tête, mais il y a des hôpitaux qui ont été totalement, qui ont eu leur service informatique bloqué à cause de ransomware comme ça. Et ils ont payé.
Il y en a qui ont payé.
Il y en a qui auraient payé, oui. Alors, il paraît que la SNCF utilise Linux. Alors, il y a beaucoup de sociétés qui utilisent Linux pour différentes raisons. Effectivement, de manière générale, on est plus sécurisé sous Linux. Alors, ça ne veut pas dire que sous Linux, vous risquez rien du tout, mais vous êtes plus à l'abri des attaques massives, pas du tout des attaques ciblées. Parce que ça, quand on est une grande entreprise, on peut avoir une attaque ciblée. Si on est sous Linux, l'attaquant va s'adapter.
Je serais très méchant en disant que même chez Microsoft, ils utilisent Linux en interne. Mais honnêtement, c'est que le gros problème dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle la monoculture. Vous prenez par exemple, vous allez cultiver des vignes et vous avez des régions complètes qui sont sur lesquelles il y a des plants de vignes. Mais si jamais il y a une attaque de mildiou, c'est l'ensemble de ces cultures qui sont détruites. Même chose pour le blé. Avec certains champignons, et c'est comme ça qu'on se retrouve, avec un tiers de la production de la bosse qui est détruite. C'est ce que l'on appelle le paradoxe de la monoculture. C'est plus simple à gérer, mais d'un autre côté, quand on a un problème, on a d'immenses soucis. Et moi, je suis dans une entreprise où, effectivement, on essaie d'encourager la polyculture, c'est-à-dire qu'on n'est pas que du Windows, qu'on est aussi du Linux, qu'on est aussi, d'ailleurs, des versions différentes de Linux, du Mac, pour essayer d'éviter justement ce genre de situation. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup plus cher à gérer. Par contre, quand on a un souci, au moins, c'est relativement contenu et relativement cantonné, on va dire.